au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Ouais, nous sommes mercredi, c'est le 11 février. J'espère que vous avez passé une bonne journée à l'émission. Aujourd'hui, sous pression depuis l'abolition du PEC, Jean-François Roberge commence à ramollir. On en parle avec Pierre Paquette. Avec nous à l'émission également, la docteure Lynn Couture, présidente de l'Association des médecins omnipraticiens Laurentides-Lanaudière. On va parler de l'idée de Simon Jolin-Barrette d'inclure le droit à l'avortement dans un projet de constitution québécoise. On va parler aussi avec Alexis Goyer, journaliste à la station de radio CHGA de Maniwaki. Il sera question du drame familial survenu dans la petite communauté autochtone de Kitigan-Zibi. Également, Isabelle Perrault, présidente de la table des préfets de Lanaudière. On va parler du programme d'expérience québécoise, le PEC. Mais tout d'abord, le monde communautaire qui se mobilise plus que jamais pour obtenir un financement à la mission adéquat. Un mouvement de grève qui se dessine au cours des prochaines semaines. La Troquel, la table régionale des organismes communautaires de Lanaudière, qui va tenir demain une rencontre en visioconférence pour ses membres pour expliquer ce qui s'en vient. François Morin a parlé à Hugo Valiquette, le directeur général de la Troquel.
Alors, Hugo Valiquette, donc, on semble avoir effectivement pris position. On s'en parlait ces dernières semaines. Il y aura un mouvement de grève là, des groupes communautaires. Alors, demain, il y aura une rencontre d'information.
Oui, exactement. En fait, on en avait parlé la dernière fois. Il y a une réflexion qui se passe en ce moment ici dans Lanaudière pour embarquer dans le mouvement le communautaire à bout. Et ces réflexions-là se font partout au Québec. Dans une rencontre de conseil d'administration de la Troquel, il a été décidé d'inviter les organismes à embarquer dans le mouvement. Et ça, ben, ça s'est fait parce qu'il y avait déjà une trentaine d'organismes ici dans la région qui étaient dans cette réflexion-là. Il y a déjà des mandats de grève ou d'interruption d'activité qui ont été décidés par les organismes. Donc, l'idée, c'est de continuer à mettre de la pression en vue du prochain budget du Québec et évidemment en lien avec les élections qui s'en viennent à l'automne. Et tout ça ben, va se faire aussi dans le cadre de la grande campagne de mobilisation des organismes communautaires autonomes Lanaudois, c'est ça la cas. Donc, quand on voyait les revendications des organismes, cette volonté-là aussi de montrer l'importance de l'action communautaire autonome, puis on le fait déjà depuis des années. Et là, il y a cette volonté-là qu'on fasse des actions un petit peu plus musclées pour justement démontrer l'état des troupes, la situation, on en parle depuis souvent, elle est intenable. Le financement n'a pas été rehaussé à la hauteur des besoins. Et là, ben les personnes dans les organismes communautaires autonomes n'en peuvent plus. Et c'est pour ça que le mouvement communautaire à bout rassemble autant.
Justement, là, on veut comprendre comment ça va se passer ces deux semaines de grève-là, parce qu'évidemment, c'est pas très courant là dans le monde communautaire. C'est pourquoi on tient justement cette rencontre d'information.
Oui, exactement. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le mot grève dans le mouvement communautaire autonome n'a pas la même signification que la grève dans des conflits avec les patrons. Ou quand on parle de grève dans le mouvement communautaire autonome, c'est dire on change ce qu'on fait habituellement pour mettre en phase différentes actions, différentes mobilisations. Fait que ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, les organismes vont transformer leur activité, mais personne va être laissé dans la rue, personne va être affamé parce que les organismes sont en grève, mais par contre, les personnes qui viennent dans les organismes communautaires autonomes vont être invitées à participer à ces journées de grève-là et au courant des 9 jours où il y aura les interruptions d'activité ou les grèves des organismes, il y aura des actions qui vont se passer dans les différentes MRC, dans la région aussi. Et le 2 avril, l'ensemble du mouvement communautaire autonome Lanaudois et québécois est invité à se rendre devant l'Assemblée nationale du Québec pour une grande manifestation. Et ce qui est souhaité par les organisateurs, c'est que ce soit la plus grande manifestation pour l'action communautaire autonome. On a déjà été 5000 devant l'Assemblée nationale. On souhaite rassembler encore plus de personnes en 2026.
Et faut-il le rappeler, il y a quand même un contexte politique là, quand même particulier. Il y a deux courses à la chefferie pour les grands partis à Québec. Et il y a également l'échéancier électoral là, qui s'en vient.
Exactement. Et c'est aussi pour ça qu'il a été décidé de bâtir ce rapport de force-là en fonction des campagnes aux chefferies et en plus de ça pour les élections qui s'en viennent. Parce que on va se le dire, François, à partir du mois de juillet, on va déjà être dans la pré-campagne électorale qui, elle, va jouer en septembre pour les élections du 5 octobre prochain. Donc, il y a cette volonté-là dans les organismes communautaires autonomes de Lanaudière, évidemment, mais aussi d'un peu partout au Québec, de dire, là, ça suffit de rire de nous. Vous nous donnez 10 millions de rehaussements, on en demande 911 millions. Donc, là, il y a vraiment le ras-le-bol qu'on parle depuis des années va s'exprimer.
Bon, voilà, c'était Hugo Valiquette, le directeur de la table régionale des organismes communautaires de Lanaudière. Il est 16h12. Dans les prochaines minutes, on va avoir l'occasion d'entendre Isabelle Perrault, la présidente de la table des préfets de Lanaudière au sujet du PEC.
Bonjour, c'est Kim de Joliette-Nissan. Chez nous, ce n'est pas juste des véhicules que vous trouvez. C'est une équipe qui vous accompagne à chaque étape avec des conseils clairs et un service qui fait la différence. Que ce soit pour l'entretien, vos questions ou vos besoins particuliers, Joliette-Nissan est là pour vous. Pendant l'événement Maîtrisez toutes les conditions, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro un des véhicules neufs selon J.D. Power. Venez nous rencontrer au 800 boulevard Basse de Roque à Joliette pour profiter de nos services rapides et de nos conseils d'experts. Joliette-Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Jusqu'au 14 février, laissez-vous envoûter par la promo Coup de foudre du Centre culturel Desjardins. Deux billets pour 60$ sur une sélection diversifiée de spectacles. Réservez dès maintenant vos billets pour Stéphane Archambault, Elle, la pièce de théâtre Merci d'être venu, Marc Dupré, Pierre-Luc Pomerleau, Ballet Ouest de Montréal avec Ella, l'histoire de Cendrillon ou encore Le poète et son luth. Une sortie à deux, c'est magique. Dites oui à l'émotion sur spectaclejoliette.com.
Besoin d'une sieste profonde? Étendez-vous sur votre nouveau matelas confortable de chez Ameublement SJ Dion. Ameublement SJ Dion, c'est 3 étages de meubles, matelas, électroménagers et des articles pour décorer les pièces de votre maison. Nos conseillers en ameublement ont un talent naturel. Ils trouveront le beau qu'il vous faut. Ameublement SJ Dion, 1 rue Gauthier Nord à Notre-Dame-des-Prairies. Chez nous, c'est tellement chez vous depuis 60 ans. 450-759-1409.
L'échappée sur le pouce, c'est ta solution de prêt-à-manger. Savoureux et abordable, on t'offre le meilleur des deux mondes. Un repas à ton goût et une économie de temps. Repas fraîcheur, prêt à chauffer ou à congeler, l'échappée sur le pouce cuisine pour toi avec des ingrédients locaux et frais. Tous les détails à l'échappeesurlepouce.com.
Jouer au Super Radio Bingo de CFNJ, c'est payant.
Toujours 5 000 $ à gagner dimanche à 10h05 avec les 3 jeux et mercredi, bingo spécial à 19h30, carte pleine à 5 000 $. Bingo! Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Saint-Émilie de l'Énergie, dépanneur RMRI, Marché Saint-Émilie, dépanneur du Centre, Family Prix, Perron et La France, à Saint-Zénon, dépanneur Rondeau, à Saint-Michel-des-Saints, dépanneur Ultramar, dépanneur Proxy Extra, Garage S. Hébert, Marché KCR, Pharmacie Jean-François La France, Uniprix Santé Ali Gariani, à Saint-Côme, dépanneur RMRI, Marché Tradition, à Saint-Alphonse-Rodriguez, Marché Express et Métro Famille Blanchard, et à Sainte-Marceline de Kildare, dépanneur Sainte-Marceline. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu. CFNJ.
Lanaudière PM. Politique provinciale.
Ouais, même si le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, demande qu'on lui fournisse des scénarios pour pallier le mécontentement qui est lié à l'abolition du programme d'expérience Québec, il y a la table des préfets de Lanaudière qui souhaite la reconnaissance des droits acquis là, pour les immigrants parfaitement intégrés. François Morin en a parlé avec la présidente Isabelle Perrault et ça, c'est juste un petit peu avant que le ministre Roberge effectue une forme de volte-face là, aujourd'hui.
Isabelle Perrault, donc, la table des préfets de la Nodière qui prend position, de toute façon, à peu près toutes les municipalités aussi au Québec, l'Union des municipalités, la FQM également, se sont positionnés en regard d'un retour, à tout le moins, là, d'un droit acquis là, concernant les gens qui étaient inscrits ou en voie d'inscription au PEC. Il y a une urgence, là.
Oui, ben tout à fait, parce que ça vient directement, là... ça attire, ça retenait les travailleurs francophones, bien souvent. Mais dans pour les régions, c'est vraiment les services de proximité, le développement économique qui est en jeu par l'abandon de ce programme-là.
Il y a quand même un petit espoir, peut-être, parce que là, les deux candidats à la chefferie de la CAQ, ils vont de certaines sorties et tentent effectivement, là, ou s'engagent à effectuer un certain retour sur le PEC.
Oui, bien, on est dans une drôle de situation là, au niveau de la gouvernance nationale. Mais oui, effectivement, il y a de l'espoir. Puis je pense que la collaboration avec les acteurs des régions et le gouvernement doit être vraiment renforcée, surtout pour ce projet-là, ce programme-là. Parce que d'entendre ce qui se vit sur le terrain, d'entendre les répercussions que l'abandon de ce programme-là sur l'économie des régions, sur le tissu social aussi, parce que ces gens-là, pour plusieurs, là, sont bien intégrés dans nos milieux. Je pense que ce serait un soutien que les régions, les décideurs des régions, les gens sur le terrain dans les régions pourraient offrir au gouvernement pour faire un changement de cap qui se ferait en douceur, là, si je peux dire.
Parce que François Legault, lui, garde le cap en disant, là, c'est dangereux, Montréal-Laval, on peut perdre le français, mais au-delà de Montréal-Laval, il y a les régions, il y a les régions qui ont besoin de ces gens-là.
Ben tout à fait. Puis dans les régions, les gens qui sont venus s'installer ont appris le français ou sont en voie de le maîtriser. Donc, c'est vraiment là, c'est une approche d'immigration qui avait été appréciée, qui avait offert beaucoup de promesses à ces gens-là. Faut respecter ça.
Est-ce qu'on est chiffré ou est-ce qu'on a une idée là, justement, du nombre d'immigrants là, qui pourraient justement bénéficier d'un certain droit acquis dans la région?
Non, je ne sais pas le nombre exact là, des gens qui sont impactés par ça. Il y a d'autres programmes aussi qui font venir de l'immigration là, en région. Donc, c'est un peu difficile à dire là, pour moi, là, mais je pourrais trouver peut-être cette information-là. Mais ce que je sais, c'est que parfois, c'est pas un grand nombre, mais c'est un grand impact. Je pense entre autres, par exemple, à Saint-Michel-des-Saints, où il n'y a pas 10 000 nouveaux immigrants, là. Mais sauf que ceux qui sont là sont bien intégrés, ont un emploi parfois même spécialisé, qui font toute la différence, puis qui font en sorte que certaines entreprises pourraient voir leur carnet de commandes complètement pas capable de le remplir. Là. Donc, c'est pas nécessairement le nombre, mais c'est aussi des gens de qualité qui sont venus s'installer chez nous.
Et c'est pas seulement dans des secteurs dits stratégiques, comme le prétend le gouvernement. Là, il y a des secteurs là, comme le tourisme, comme l'hébergement, la restauration. Ouais. Ces gens-là sont essentiels également.
Oui, le milieu de la santé aussi. En région, parfois, c'est difficile de recruter. Donc, ces gens-là viennent s'installer. Et il y a leurs conjointes, leurs enfants. Il y en a même qui sont nés ici. Là. Donc, c'est vraiment, au niveau social, ça peut être de vrais drames humains. Et au niveau du développement économique également, parce que des entreprises vont se retrouver en péril.
Il y en a déjà, en tout cas moi, il y a des gens à qui j'ai parlé qui me disent qu'effectivement, là, il y a déjà une forte problématique au niveau des activités à l'intérieur même des entreprises. On peut pas donner d'échéancier, mais c'est pour avant-hier.
Oui, bien tout à fait. Puis la course à la chefferie va se terminer au printemps. C'est un peu tard, là. Ça serait vraiment intéressant. Dis donc que le premier ministre écoute là, les gens qui veulent devenir chef du parti, chef du gouvernement par la même occasion, puis que cette écoute-là se traduise rapidement et concrètement là, en gestes posés pour reconnaître les gens qui sont déjà bien intégrés chez nous.
En terminant, j'ai pratiquement envie de vous faire un peu de politique. C'est amusant de constater que Jean-François Roberge, qui tient son bout, appuie Christine Fréchette qui veut faire un pas.
Oui, bien là, c'est ce que je vous disais, c'est un peu une drôle de situation. Là. La vie politique au Québec est un peu chaotique. Là. Je ne sais pas trop comment ils vont pouvoir s'en sortir, mais je pense que de s'allier avec les municipalités, de s'allier avec les MRC, les régions, ça serait une bonne façon, tout en douceur, de changer de position tranquillement, pas vite.
Voilà, c'était François Morin qui s'entretenait avec Isabelle Perrault, la présidente de la table des préfets de Lanaudière.
Lanaudière PM, fait divers.
Un homme a tué ses deux enfants dans la communauté autochtone de Kitigan-Zibi en Outaouais avant de s'enlever la vie. C'est ce qu'a confirmé la Sûreté du Québec aujourd'hui. Ça s'est passé la nuit dernière. Il a commis ses crimes avec une arme à feu. Triste nouvelle qui n'est pas sans rappeler le drame survenu le 25 janvier dans la communauté Atikamekw de Manawan dans le nord de Lanaudière. Pour en parler, j'ai en bout de ligne Alexis Goyer, qui est journaliste à la station de radio CHGA de Maniwaki. Bonjour Alexis.
Bonjour.
Maniwaki, pour situer la communauté, cette communauté de Kitigan-Zibi, vous êtes voisin d'à peu près 15 minutes en véhicule. Là. C'est pas bien ben long, c'est tout près là.
Ah, c'est collé, en fait. C'est à la frontière. Pour ceux qui connaissent, quand tu montes la route 105 pour te rendre à Maniwaki, t'as pas le choix de passer par Kitigan-Zibi. Les deux sont collés l'un sur l'autre.
Bon, maintenant, quelle est la réaction de la communauté? Parce que ça doit être vraiment difficile à vivre dans une petite communauté comme ça.
Kitigan-Zibi, c'est une communauté 1200 résidents, pas plus, qui est vraiment tissé serré. Donc, tout le monde est vraiment sous le choc, bouleversé d'apprendre cette nouvelle. Tout le monde se connaît. J'ai parlé au chef de bande de la communauté, Jean-Guy White Duck, qui lui-même est dévasté. Il pense un peu comme tout le monde, hein. Les enfants, c'est l'innocence, c'est la pureté, donc on veut les protéger, pas qu'il leur arrive malheur. Même chose pour le reste de la vallée de la Gatineau. La vallée de la Gatineau, c'est une MRC de 17 municipalités. Eh bien, on a vu se multiplier d'un coin du nord au sud les publications où les gens offrent leur sympathie. C'est le genre de drame qui touche tout le monde.
Est-ce qu'on a mis à la disposition des membres de la communauté des ressources en psychologie là, pour venir en aide à des personnes là, qui pourraient subir un choc suite à ce drame?
Il faut savoir que ça fait plusieurs années que Kitigan-Zibi fait des efforts de sensibilisation à l'importance de la santé mentale et au dialogue, là, à la conversation, et tente de développer des outils et de mettre en place des ressources. Là. Donc, c'est vraiment... les membres de la communauté, ça fait un moment qu'ils ont pris conscience de ça et qu'ils tentent de le traiter. Malheureusement, ça n'a pas empêché ce drame-là d'arriver. Si on peut voir un peu de lumière dans la noirceur, espérons que ça va encourager à continuer les efforts qui ont déjà été faits. Ça vaut la peine de le rappeler.
Et puis ce matin à Québec, il y a le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable des relations avec les Premières Nations, les Inuits, Yann Lafrenière, là, qui s'est dit de tout cœur avec la communauté. On va écouter sa réaction.
Drame horrible ce matin dans la communauté de Kitigan-Zibi. Trois personnes qui ont été retrouvées sans vie. Je vais faire toute l'aide qu'on peut donner à la communauté, au chef. Présentement, on sait que c'est deux enfants qui sont décédés, de même qu'un papa. Alors, mes pensées vont aux proches, à la communauté, puis aux premiers intervenants, parce que d'arriver sur une scène comme ça, pour l'avoir déjà vécu, je peux vous dire que ça laisse... c'est difficile, très difficile.
Maintenant, Alexis Goyer, quelle est la perception des citoyens de la municipalité de Maniwaki? On dit que vous êtes voisin, là, vous le dites, de Kitigan-Zibi, là, par rapport aux citoyens, justement. On sait que dans Lanaudière, il y a eu des problèmes de racisme par rapport aux Autochtones, par rapport aux Atikamekw. Chez vous, on parle de la nation algonquine. Quelle est la perception des Blancs de Maniwaki?
Évidemment, tout le monde est conscient qu'il y a des injustices historiques, hein. Il y a des longues situations, certains contextes qui ont amené à certaines situations aujourd'hui. Tout le monde a conscience de ça et tout le monde essaye de mettre la main à la pâte pour faciliter la chose, arriver à se réconcilier, arriver également à donner les ressources nécessaires pour essayer de régler des problèmes. Donc ici, vous savez, dans différentes communautés, même si on est proche, on a parfois certaines différences, on n'a pas toujours les mêmes intérêts, mais dans des moments comme ça, tu sens vraiment que c'est l'unité qui règne. Mmh. Tout le monde met de côté les différences pour le mettre de l'avant les ressemblances.
Ben, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Alexis Goyer, qui est journaliste à la station de radio CHGA de Maniwaki, en espérant que cette communauté réussisse à trouver un petit peu la paix là, malgré les tristes événements survenus dans les dernières heures.
Merci. J'en profite pour souhaiter mes condoléances à mes compatriotes de la Colombie-Britannique. C'est vraiment deux jours très sombres pour le Canada.
On aura l'occasion d'en reparler aux informations dans les prochaines minutes avec Pierre Jubinville. Merci, Alexis Goyer.
Merci.
Voilà, il est 16h26.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
La métropolitaine pour Charles de Gaulle, c'est dense depuis l'avenue Marien et ce jusqu'au boulevard Henri Bourassa. Pour être sûr des choses, ça va très bien pour atteindre Charles de Gaulle et franchir la rivière des Prairies, Repentigny. 40 Est, on circule sans problème. Le pont Le Gardeur, accès facile autant par Sherbrooke que par Notre-Dame, 25 Nord. Un peu dense, jonction avec la 440. On demeure nombreux jusqu'au boulevard des Mille-Îles. La traversée vers l'île Saint-Jean, Terrebonne, ça va bien. Secteur Mascouche, 25 Nord, on circule sans problème. Pont Sophie Masson, ça va très bien en ce moment. Finalement, autoroute 640 entre la 25 et la 40. Un peu dense à partir de la montée des Pionniers pour la 40. Et puis, en direction ouest, quand même, c'est relativement facile en ce moment. L'actualité, dans un moment.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Pendant l'événement Maîtrisez toutes les conditions, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Prenez le volant d'un Kicks S 2026 à traction intégrale en location 60 mois à partir de seulement 398 $ plus taxes par mois sans aucun compte initial. Chez Joliette Nissan.
Écoute en direct, actualité régionale, réécoute, concours et bien plus sur l'application CFNJ à télécharger sur Android et Apple.
Jusqu'au 14 février, laissez-vous envoûter par la promo Coup de foudre du Centre culturel Desjardins. Deux billets pour 60 $ sur une sélection diversifiée de spectacles. Réservez dès maintenant vos billets pour Stéphane Archambault, Elle, la pièce de théâtre Merci d'être venu, Marc Dupré, Pierre-Luc Pomerleau, Ballet Ouest de Montréal avec Ella, l'histoire de Cendrillon ou encore Le poète et son luth. Une sortie à deux, c'est magique. Dites oui à l'émotion sur spectaclejoliette.com. Le Festival 5 ombres en glace se termine en beauté les 14 et 15 février. Le samedi 14 février de 12h30, retrouve Sonic Wave en spectacle au Parc de l'Harmonie. Participe ensuite à l'atelier d'initiation à la sculpture sur glace de 13h à 16h dans la rue entre le Parc de l'Harmonie et l'église. À 14h, place au cours de danse en ligne avec Highway Country, puis spectacle de Candy House Country dès 14h30. Et en soirée de 18h à 20h, viens vivre le ski de fond au Flambeau au camp Richelieu. Le dimanche 15 février, atelier de sculpture sur glace dès 13h et spectacle de Bélan à 13h au Parc de l'Harmonie. 50 t'attend. CFNJ sera sur place.
Bingo! Jouer au Super Radio Bingo de CFNJ, c'est payant.
Ce soir, 19h30, bingo spécial avec la carte pleine à 5 000 $. As-tu tes cartes? La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
L'actualité de ce mercredi 11 février en manchette. Pablo Rodriguez est blanchi par le juge Jacques Fournier. Karl Malenfant veut laver sa réputation et Jean-François Roberge tente d'apaiser le climat. Tout d'abord, Pierre Jubinville, l'échange de textos dans l'histoire de Brownies au Parti libéral était un montage, semble-t-il.
Ouais, on peut parler d'un certain soulagement pour Pablo Rodriguez et son entourage, du moins pour l'immédiat. Le juge à la retraite, Jacques Fournier, conclut que l'échange des textos ne peut être qu'un montage. Mais il n'est pas en mesure de dire s'il y a eu, oui ou non, achat de vote lors de la course à la direction du Parti libéral. C'est le Journal de Montréal qui avait fait part de ces allégations en novembre et en décembre. L'article faisait état d'une somme d'argent, d'où la référence à un brownie ou un billet brun de 100 $ qu'on remettait présumément en échange d'un vote pour M. Rodriguez. Le juge, l'ex-juge, n'a pas eu accès à l'intégralité des messages. Il ne peut donc pas déterminer si les allégations sont fondées. On va écouter le chef intérimaire Marc Tanguay.
L'entourage du chef et ceux, celles et ceux qui ont gravité autour n'avaient pas aucunement été mis au courant. En tout cas, il n'y a aucun indice du juge. Encore une fois, c'est son éclairage. Aucun indice qui laisserait entendre qu'il aurait été mis au courant des textos du 19 ou des allégations entourant. Alors nous, ça confirme notre perception des faits. Il est important que tout le monde dise la vérité. Que tout le monde dise la vérité. Et puis que celles et ceux pour qui le chapeau fasse, qu'ils le portent.
Reste donc, Claude, encore les enquêtes de l'UPAC et du commissaire à l'éthique.
L'ancien patron de la SAAQ n'a rien à se reprocher, semble-t-il.
Non, à quelques jours du dépôt du rapport Galland, lundi, sur sa clique, un de ceux qui pourrait être sévèrement blâmé règle donc ses comptes. Karl Malenfant pourrait recevoir 48 blâmes qu'il réfute à l'avance.
J'ai sûrement fait des erreurs de gestion au quotidien, mais j'ai rien d'illégal à me reprocher.
Pour Karl Malenfant, les problèmes de sa clique ont été montés en épingle. Le système fonctionne malgré un départ chaotique, mais devant les critiques, il a été identifié comme le grand responsable par une opération bien orchestrée de destruction de son image publique.
L'utilisation de mensonges ou de faits hors contexte pour créer et alimenter un doute.
Dans une conférence de presse de 2 heures, il a présenté sa vérité en balayant du revers de la main les 48 potentiels blâmes le concernant. Pour lui, à la fois la vérificatrice générale du Québec et le commissaire Denis Galland suivent des conclusions préfabriquées.
La vérité, c'est que je ne comprends pas pourquoi ce que je viens de vous dire a existé.
Karl Malenfant soutient ne pas avoir été contacté par l'UPAC qui enquête dans le dossier. Il ne ferme pas non plus la porte à d'éventuelles poursuites pour blanchir sa réputation. Annie Guillemette, Cogeco Nouvelle, Montréal.
Et puis, il y a Christine Fréchette qui ébranle son collègue Jean-François Roberge dans le dossier du PEC.
Oui, on peut dire que Jean-François Roberge plie sous la pression. Il va proposer des mesures transitoires entre le PEC et le nouveau programme de sélection des immigrants, mais ces mesures n'entreront en vigueur qu'après la course à la direction. Louis Lacroix.
Et Bernard Drainville et Christine Fréchette proposent des clauses de droits acquis pour les travailleurs étrangers qui étaient inscrits au PEC. Le ministre Roberge n'a donc plus le choix.
J'ai demandé au ministère de l'Immigration d'évaluer différents scénarios de transition.
Mais le ministre estime que ça ne changera rien puisque les délais seront de plusieurs semaines.
Même si on rétablissait l'ancien programme cet après-midi, là, ça ne réglerait en rien les craintes des personnes.
D'autant que la proposition de Christine Fréchette ne s'appliquera qu'à partir du 12 avril.
Moi, je fais cette proposition-là dans le cadre de la course à la chefferie, donc c'est à partir du moment où je serai chef de la CAQ.
Et ne comptez pas sur François Legault pour trancher.
J'ai pas l'intention de m'impliquer dans ces débats. Je quitte le 12 avril.
Louis Lacroix, Cogeco Nouvelle, Québec.
Puis en terminant, on revient, Pierre, sur cette tuerie en Colombie-Britannique.
Oui, 9 personnes sont décédées à Tumbler Ridge. La suspecte dans cette affaire a été identifiée comme Jesse Van Rootseler, 18 ans. Selon les premières informations dévoilées par la police, elle aurait agi seule et des problèmes de santé mentale pourraient être en cause. À Ottawa, le premier ministre Mark Carney a rendu hommage aux victimes.
Nous avons tenu un moment de silence pour les familles et la communauté en deuil. Au nom de toute la population canadienne, j'offre mes prières aux victimes, à leurs familles, à leurs amis, aux blessés et à tous ceux et celles dont la vie a été bouleversée à jamais hier.
Bon, ben voilà.
Voilà.
Il est 16h34. Merci, Pierre Jubinville.
Lanaudière PM.
Lanaudière PM.
Claude Fournel.
Lanaudière PM. Politique provinciale.
L'Association des médecins omnipraticiens Laurentides Lanaudière émet des réserves en regard de l'idée du ministre Simon Jolin-Barrette là, d'inclure dans son projet de constitution le droit à l'avortement. La présidente, la docteure Lynn Couture, a bien voulu répondre là, aux questions de François Morin là-dessus.
Docteur Couture, sans dire que l'Association des médecins omnipraticiens Laurentides Lanaudière s'invite dans un débat constitutionnel, on a quand même des réserves concernant l'enchâssement là, du droit à l'avortement dans le projet de Simon Jolin-Barrette.
Ben, tout à fait. En fait, ce que le barreau du Québec et plus de 100 professeurs disent, c'est que le fait de sortir ce soin-là, des soins, et de le mettre en droit, risque en fait de le fragiliser, de le rendre attaquable. Nous autres, on n'est pas juristes, mais bon, on regarde ce qui se passe, on écoute ce qu'ils disent. Puis on a bien vu quand même que, en fait, toutes les sociétés savantes, là, que ce soit la Société des obstétriciens gynécologues, le Collège des médecins, la FMOQ, le Collège québécois des médecins de famille. Alors, il y a plein de sociétés également qui disent non, attention, c'est dangereux de le sortir. Puis nous, ce qu'on se dit, c'est localement, ce qui est important, c'est l'accès. Parce qu'on a beau dire, voici un soin, mais s'il n'est pas accès, voici un droit que les gens ont, mais si dans les faits, ils n'ont pas accès aux soins, est-ce qu'ils ont vraiment gagné quelque chose? Alors nous, on met plutôt l'accent sur l'accès, la simplification pour que les femmes puissent localement obtenir le service.
Et on le sait, à peu près tout le monde le sait, que ce droit-là à l'avortement, au libre choix finalement des femmes, est exercé de façon courante là depuis quelques années déjà. Pourquoi l'enchâsser dans une constitution? C'est la question qu'on peut se poser.
Mais je pense qu'elle est excellente, votre question. Et puis, je vous dirais, je la pointerais vers le gouvernement à ce moment-ci, là, parce que moi, j'ai pas cette réponse-là. Nous, par contre, ce qu'on veut, c'est rendre le service accessible, simplifié, puis s'assurer que... Parce qu'on s'entend, là, c'est jamais quelque chose de particulièrement agréable à obtenir comme soin, là. L'objectif, c'est pas de dire « youpi », là. Mais quand une femme est enceinte, et c'est une grossesse qu'elle ne souhaite pas, elle va chercher un moyen. Et alors, aussi bien le rendre facile, économique pour tout le monde. Quand je dis économique, là, c'est au niveau sociétal. Donc, simplifions la façon de le faire et orchestrons les choses pour que, finalement, ça devienne un soin réellement accessible.
Parlons-en justement de l'accessibilité aux soins. On parlait un peu plus tôt cette semaine que la pilule abortive, son utilisation explose un peu partout au Québec. Est-ce que c'est pas là justement un signe qu'il y a une plus grande accessibilité aux soins?
Oui, mais c'est pas pour toutes les grossesses. Hein. C'est vraiment, il y a certaines étapes de la grossesse où oui, on peut, à certains moments, on peut plus, il faut avoir l'évacuation chirurgicale. Alors oui, c'est un outil de plus, c'est certain, et ça, évidemment, c'est bienvenu parce que, comme je disais tantôt, on vise la simplicité. T'sais. Puis idéalement, ce qu'on voudrait, c'est que la contraception soit accessible à tous et non pas en fonction de l'épaisseur de son portefeuille pour ne pas avoir à vivre des avortements. Je pense que ça serait encore mieux, mais le fait est qu'il y aura toujours quand même des échecs et des problèmes et qu'on va avoir besoin d'offrir ce soin-là.
Alors que si on revient au propos de départ, c'est un sérieux bémol concernant là, l'enchâssement du droit à l'avortement dans la Constitution. La commission parlementaire se poursuit. Est-ce que vous avez fait ou il y aura des représentations?
Bien, la molle, nous n'avons pas fait de représentation directement en commission parlementaire. Toutefois, nous avons envoyé une déclaration localement, c'est-à-dire aux gens, à la critique en matière de santé du PQ qui est dans notre région, là, Mme Janticor à Terrebonne, de même qu'à la ministre de la Condition féminine, Mme Prou, qui elle également est dans Berthier, donc dans la Naudière. Donc, c'est un enjeu qu'on a voulu traiter, nous, localement. Ceci étant dit, oui, la Fédération, elle, Fédération des médecins omnipraticiens, a effectivement déposé un court mémoire et le Collège québécois des médecins de famille également s'est même rendu en commission parlementaire.
En terminant, Dr Couture, est-ce qu'on a espoir qu'il y a des changements parce que le ministre Simon Jolin Barrette a la réputation de pas lâcher facilement le morceau?
Ben écoutez, oui, on a espoir. Il faut garder l'espoir parce que on a quand même fait, il y a quelques années, vous savez, c'est un débat récurrent, hein? Madame Martine Biron avait reculé. Et là, bien écoutez, encore une fois, il n'y a pas grand monde qui sont du côté du ministre Barrette là, pour dire oui, c'est une bonne idée. Alors, on espère qu'effectivement, il trouvera une voie de passage pour renverser la vapeur pour l'article 29 de son projet de loi 1 et donc effacer ça tout en gardant la tête haute, là.
Voilà, c'était la docteure Lynn Couture. Elle est présidente de la MOL. La MOL, c'est l'Association des médecins omnipraticiens Laurentides-Lanaudière. Dans un moment, on va retrouver Pierre Paquette. On va parler du PEC et de Jean-François Roberge.
Jouer au Super Radio Bingo de CFNJ, c'est payant.
Toujours 5 000 $ à gagner dimanche à 10h05 avec les trois jeux et mercredi, bingo spécial à 19h30, carte pleine à 5 000 $. Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Joliette, dépanneur Jean-Louis, dépanneur Filgo, dépanneur Polo, dépanneur Proxy Extra Arnois, Tabagie 636, dépanneur Michel Caram, dépanneur Nico, dépanneur Couchetard, dépanneur Marie, dépanneur Beaussoir Pétro-Canada, épicerie Forêt et pharmacie Nancy Gaudreau à Saint-Charles-Borromée, dépanneur Couchetard, dépanneur Rapido, dépanneur Bonissoir Shell, dépanneur Saint-Charles, IGA Marché C&C Le Thor, à Saint-Pierre, dépanneur J&G, à Notre-Dame-des-Prairies, dépanneur 350 Bonissoir, dépanneur des Prairies et Marché Philippe, et à Saint-Paul-de-Joliette, dépanneur Bonissoir, dépanneur Proxy Extra et Shell Saint-Paul. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Pour la Saint-Valentin, CFNJ vous envoie de l'amour et vous envoie aussi au resto. Jusqu'au 14 février, repérez l'indice du jour mentionné par vos animateurs. Puis inscrivez-vous à cfnj.net, section concours. Le jour de la Saint-Valentin, vous pourriez gagner l'un des 4 certificats cadeaux de 100 $ chacun à l'échappée Grill et Bar Sportif de Joliette.
Une inscription possible par jour jusqu'au 14 février à 13h.
Concours réservé aux membres. Pour le devenir, voyez tous les détails sur cfnj.net.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Chez nous, ce n'est pas juste des véhicules que vous trouvez. C'est une équipe qui vous accompagne à chaque étape avec des conseils clairs et un service qui fait la différence. Que ce soit pour l'entretien, vos questions ou vos besoins particuliers, Joliette Nissan est là pour vous. Pendant l'événement, maîtrisez toutes les conditions, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Venez nous rencontrer au 800 boulevard Basse de Roc à Joliette pour profiter de nos services rapides et de nos conseils d'experts. Joliette Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Les petites vites de Jean-Claude Gélina.
Comité olympique, bonjour.
Bonjour, je veux savoir s'il est trop tard pour s'inscrire aux Olympiques.
C'est vraiment trop tard, je suis désolée.
Parce que moi et mon beau-frère, on s'est construit un bobsleigh, des feuilles de plywood, des essieux d'Yaris, puis un capot avec une porte de cabane à pêche sur la glace, puis sans barbotte, puis la Budweiser, mais on l'a essayé dans la côte du dépanneur, ici, puis ça glisse en calcaire.
Les petites vites de Jean-Claude Gélina. En semaine à 7h45 et 17h45. La fin de semaine, 15h45, 16h45 et 17h45 à CFNJ.
À CFNJ, voici le commentaire de Pierre Paquette.
Salut Pierre.
Salut, comment vas-tu?
Ça va bien. Pierre, je regardais ce matin, ça déboulait dans l'actualité par rapport au PEC sous pression. Il y a le ministre Jean-François Roverge là, qui commence à ramollir par rapport au programme de l'expérience québécoise.
Ben oui, d'abord, il y a énormément de contestations. Ce qui est assez étonnant, c'est que la contestation de la fin du programme vient aussi bien des milieux patronaux que des milieux syndicaux. Ça, c'est rare que j'ai eu ça dans ma vie. Mm-hmm. Et il y a une unanimité sur la nécessité de maintenir ce programme-là d'une façon ou d'une autre. Puis deuxièmement, M. Roberge appuie Mme Fréchette qui elle-même a changé d'idée. Mm-hmm. Alors là, il est vraiment en situation de pression. Et M. Legault, lui, veut rester neutre dans l'affaire et continue à dire que le PEC est la meilleure solution. Alors, je comprends le pauvre Jean-François Roberge d'être un petit peu déboussolé. Là, il sait plus, c'est le cas de le dire, à quel saint se vouer.
Il faut rappeler que
François Legault.
Il y a même Bernard Drainville aussi, Pierre, là, qui lui aussi propose d'autres scénarios. Là.
Oui, alors c'est lui qui a parti un peu le bail parce que jusqu'à tout récemment, aussi bien M. Roberge que Mme Fréchette maintenaient la position du gouvernement qui était de pas de clause grand-père, là, pas de clause de droit acquis. Et le premier qui a ouvert cette porte-là, c'est M. Drainville. Et on dirait que Mme Fréchette a voulu faire comme une surenchère sur M. Drainville hier en annonçant qu'elle, non seulement, elle donnerait une clause grand-père. D'ailleurs, la clause grand-père de M. Drainville, elle est à certaines catégories d'employés, pas à tout le monde. Elle a carrément demandé proposé la prolongation du programme d'expérience québécoise pour 2 ans. Mm-hmm. À l'ensemble des gens qui sont actuellement au Québec. Alors, et à chaque fois, ce qui est assez inquiétant, c'est que les chiffres qu'on nous donne sont très variables. Alors, François Legault, le premier ministre, parle de 350 000 personnes immigrantes qui pourraient s'y inscrire. Jean-François Roberge parle de 300 000. Les chiffres qu'on a pu voir dans les médias sont plutôt autour de 30 000. Alors là, il y a beaucoup de confusion. Et ça montre à quel point un gouvernement qui a plus de chef, c'est le cas de dire, plus de que le gouvernement est laissé un peu à l'abandon, se trouve en situation difficile. Et on peut commencer à se poser la question sérieusement si on serait pas, M. Legault serait pas tout simplement mieux de proroger la Chambre.
Mais justement, un
nouveau premier ministre ou une nouvelle première ministre.
Ça a été proposé aujourd'hui, je crois, par le chef intérimaire du Parti libéral, Marc Tanguay, également par le chef du Parti conservateur, Éric Duhaime.
Je pense que là, on voit bien, parce qu'on est rendu à la deuxième petite crise de ce type-là. Là, on a eu le troisième lien, puis ça, c'est pas loin d'être terminé, parce que Mme Fréchette ne nous a toujours pas fait part de sa position. Et là, on a le PEC. Il y aura d'autres choses aussi. Alors, on peut se demander s'il serait pas plus prudent de la part du gouvernement de tout simplement proroger la Chambre jusqu'au 12 avril. En fait, peut-être pas jusqu'à temps que le nouveau premier ministre ou la nouvelle première ministre se mette en place. Parce que là, on va avoir des périodes de questions comme on a eu hier. Je sais pas si tu as eu la chance de regarder ça.
Oui, mais c'est qu'on a l'impression, Pierre, que la course à la chefferie se passe en chambre.
Ben oui, c'est que l'opposition reprend la balle au bon. Là, hier, c'était le pauvre monsieur Roberge qui était la cible de toutes les attaques de l'opposition, avec raison d'ailleurs, parce qu'il y a énormément de confusion. Et donc, ça va être comme ça, je pense, jusqu'à temps que il y ait un nouveau gouvernement, bon, caquiste, avec un premier ou une première ministre et un nouveau cabinet. Mais jusque-là, ça va être la confusion la plus totale. Alors, ce serait peut-être préférable pour l'image même de l'Assemblée nationale qu'on proroge la Chambre. Ça veut dire qu'on arrête les travaux jusqu'à ce qu'un nouveau conseil des ministres, une nouvelle première ou un nouveau premier ministre soit mis en place, plutôt que d'assister à un cirque perpétuel à la période des questions.
On a l'impression que le gouvernement est carrément sur pause actuellement. Il n'y a rien qui peut avancer. Ce sont juste des luttes intestines là, à la CAQ et ça ne fait pas avancer beaucoup de choses là, actuellement. Là.
Mais même le pire, c'est que ça peut créer tellement de confusion que ça fasse reculer certains dossiers. Alors moi, c'est un petit peu ma crainte. Là. C'est que parce qu'il y a des déclarations qui se font. Là, on en a vu déjà sur au moins deux sujets, le troisième lien et le programme d'expérience québécoise. Mais il y en aura d'autres. Là, on est juste à la mi-février. Il reste encore un mois presque et 10 jours avant que M. Legault parte. Alors, moi, je pense véritablement que ça va devenir une foire d'empoigne. Alors, le mieux, ce serait vraiment de proroger la Chambre ou de dédicter des règles particulières. Mais je vois pas là qu'est-ce que ça pourrait être. Là, mais Ça va être de pire en pire.
François Legault, qui a été sage aujourd'hui, qui a décidé de se taire et de ne pas jouer à la belle-mère comme il l'a fait dans les derniers jours, il nuit, faut croire, à la course à la chefferie en s'impliquant là quelque part. Alors là, il a carrément décidé de se taire. Et François Legault, on ne sait toujours pas s'il va se retirer. Oui, on sait qu'il se retire comme premier ministre, mais s'il va se retirer en tant que député de la circonscription de l'Assomption.
Ben moi, je pense que ça va dépendre du prochain premier ministre. C'est-à-dire, encore une fois, le premier ministre, c'est que je pense que c'est un bon soldat. Là, il va vouloir rester si on veut pas déclencher d'élections partielles. Ce qui devrait, il doit avoir une limite. Là, moi, je connais pas les détails, mais probablement que
six mois
avant l'élection, on déclenchera pas d'élections partielles. Donc, il va rester au moins pour ne pas déclencher d'élections partielles dans la circonscription de l'Assomption, d'autant plus que c'est une circonscription que la CAQ risque de perdre. Alors, donc, je pense que c'est pour ça qu'il ne se prononce pas sur la question. Il attend de voir ce qu'on va lui demander de faire. Mais en même temps, comme je mentionnais, il jouait à belle-mère sur le troisième lien, mais il joue pas sa belle-mère sur le PEC. Mm-hmm. Parce que je pense que les enjeux vont augmenter au fur et à mesure que la course va se poursuivre. Et on voit que c'est une course qui est quand même assez assez intéressante, là, contrairement à ce qu'on aurait pu croire. Mme Fréchette, oui, a de l'avance dans l'appui qu'elle a auprès du caucus, mais dans les positions qu'elle prend, pas sûr que Drainville ne marque pas des points, en particulier sur le troisième lien. Puis le PEC, sa position est beaucoup plus facile à comprendre que celle de Mme Fréchette. Alors, et on sait aussi, hier, semble-t-il, c'est ce qu'on rapportait dans les médias, que M. Roberge n'a pas voulu réitérer son appui à Mme Fréchette. Alors, ça va peut-être lui nuire énormément, là, ce ce qui s'est passé. Il semble que Jean-François Roberge n'a pas été informé par Mme Fréchette de son changement de position. Il l'a appris par les réseaux sociaux. Alors, je pense qu'il doit être un peu insulté, d'autant plus que c'est lui qui porte actuellement l'odieux de défendre la position du gouvernement.
Maintenant, il y a deux sujets qui retiennent l'attention depuis le début de cette course à la chefferie. On parle du troisième lien, on parle du PEC. Le PEC, c'est important parce qu'on sait que, autant du côté syndical, tu le disais en début d'intervention, que du côté patronat, les entreprises qui ont besoin d'employés, qui ont besoin de ces immigrants temporaires-là, et en fait que de ce programme d'intégration d'immigrants, ils ont besoin de ces travailleurs-là. Et ça monopolise l'attention, ça va de soi. Le troisième lien, ça concerne peut-être un petit peu plus seulement la région de Québec, tant qu'à moi, là, mais il y a d'autres sujets qui pourraient être amenés sur le tapis, là.
Ah ben, c'est sûr, c'est comme je disais, ben, le troisième lien, ça c'est sûr, c'est davantage un enjeu régional, puis c'est un financement national, c'est 11 milliards de dollars qui est en jeu, puis je suis pas convaincu, moi, que ce soit une dépense qui soit tout à fait justifiable, comme j'avais mentionné dans une de nos dernières émissions, même la Caisse de dépôt et de placement considère qu'il n'y a pas de besoin pour ce troisième lien. Mais c'est sûr que toutes les questions qui vont se poser au cours des prochaines semaines vont devenir un enjeu dans la bataille à la chefferie du parti de la CAQ. Alors, c'est pour ça, comme je mentionnais, puis tu rappelais qu'il y avait déjà des chefs de partis d'opposition qui l'avaient suggéré, qu'on proroge la Chambre jusqu'à temps qu'il y ait un nouveau premier ministre ou une nouvelle première ministre avec un conseil des ministres, parce que là, non seulement c'est inefficace, mais ça risque d'être carrément nuire au processus démocratique puis à certains projets qui pourraient être sur une mauvaise pente, alors qu'ils sont tout à fait justifiés.
Que ça devient une forme de mascarade aussi, là.
Ben oui, exactement. Et je pense que là-dedans, il y a une grosse responsabilité à M. Legault. Là. Il n'a pas vraiment mesuré l'ensemble des impacts de sa décision.
Merci beaucoup, Pierre Paquette.
Merci, on se reparle la semaine prochaine.
Oui, passe une belle soirée. Voilà, je prends le temps de remercier nos collaborateurs à l'émission aujourd'hui, François Morin, Pierre Jubinville, Pierre Paquette, ici Claude Fournel. Passez une excellente soirée. Nous, on sera là demain. Oui, on est là à 16h pour une autre édition de L'Anneau d'hier PM. Manquez pas Nicolas Bellemare qui sera là de l'autre côté de l'actualité de 17h. Pour vous faire soigner ça dans le 5 à 7 trad de CFNJ. Passez une belle soirée. Bye bye, à demain!